Dans le livre des Actes, au chapitre 9, versets 17 et 18, nous voyons la conversion de l'apôtre Paul. Et c'est vrai que tous les croyants pourraient, comme Paul, être remplis du Saint-Esprit au moment où ils croient et sont baptisés. Mais en fait, nous nous rendons compte dans l'expérience combien nous sommes encore contrôlés par la chair. Combien de croyants sont encore contrôlés par la puissance de la chair, comme s'ils n'étaient pas morts et ressuscités en Christ. En fait, je crois que ces personnes-là n'ont simplement pas vraiment cru au fait accompli de la mort et de la résurrection de Christ pour eux. Et donc, ils n'ont pas sincèrement mis en œuvre l'appel du Saint-Esprit à suivre ce principe de mort dont nous avons parlé, ce principe de la mort avec Christ et de la résurrection avec Christ. Donc, on pourrait dire, même si malheureusement on doit reconnaître que c'est la norme, que ces croyants-là doivent être considérés comme anormaux, c'est-à-dire en dehors de la norme que Dieu a prévue qu'il soit. Et cette anomalie a toujours existé. Nous voyons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 1 à 3, lisons ensemble. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même à présent même pas, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ? Et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Donc nous voyons qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont spirituels, ça c'est la norme de Dieu, et les chrétiens charnels, ce sont des personnes qui sont anormales, c'est-à-dire qui sont hors de la norme de Dieu. Ces gens de Corinthe à qui Paul s'adresse sont véritablement des chrétiens. Mais ils étaient charnels et non spirituels. Et trois fois dans ce même chapitre, regardez-le, trois fois dans ce même chapitre, Paul va les déclarer hommes de la chair. C'est-à-dire qu'ils trouvaient leur source de vie dans leur nature humaine, leur nature charnelle, la chair étant la normalité de la nature. Souvenons-nous bien que la régénération dont il est parlé dans la Bible, c'est une naissance par laquelle la partie la plus intime de notre être, c'est-à-dire le centre de notre être, c'est-à-dire l'esprit, qui est profondément caché à l'intérieur de nous, cet esprit va être rendu vivant et occupé par un nouvel esprit, c'est-à-dire qu'il va pouvoir devenir le trône du Saint-Esprit dans notre vie. Il faut du temps, effectivement, pour que la puissance de cette nouvelle vie atteigne l'extérieur. Parce que cette nouvelle vie va être placée au plus profond de nous, mais il va falloir que l'écorce extérieure, en quelque sorte, de notre personnalité soit brisée pour que cette vie puisse paraître extérieurement. On a des exemples très, très interpellants dans la Bible avec ces femmes qui vont oindre le Seigneur Jésus avec des flacons de parfum. Et si vous regardez bien, pour que le parfum se répande, elles sont obligées de casser le vase qui contient le parfum. Du temps du Seigneur, le parfum était plus un onguent qu'un liquide. comme nous, à notre époque, nous considérons les parfums comme une huile fluide. Mais au temps du Seigneur Jésus, les parfums étaient sous forme d'onguents, souvent de pâtes un peu épaisses, qui étaient mis dans des vases, des pots d'albâtre, avec un couvercle pour que ça ne s'évapore pas. Et il y a quelque chose de très beau dans la coutume hébraïque. La petite fille qui naissait recevait de la part de ses parents un pot, et chaque année, pour l'anniversaire de sa naissance en quelque sorte, elle recevait, ils ajoutaient du parfum, c'est-à-dire des onguents, c'est-à-dire des poudres dans ce pot, afin qu'elle puisse avoir un vase plein pour le jour de son mariage. Et le jour de son mariage, elle brisait le vase, elle répandait le parfum dans les appartements nuptiaux, sur les tentures, sur le lit, sur les couvertures, et pour le jour de son mariage. Et quand on voit ces femmes apporter au Seigneur des vases de parfum, réalisons bien que quand Marie va oindre le Seigneur, elle apporte ce qui était réservé à son propre mariage, et elle reconnaît en lui le divin époux. Donc il faut du temps pour que cette puissance de cette nouvelle vie qui est placée en nous, dans notre esprit, cet esprit nouveau qui nous est donné dans le cadre de la nouvelle alliance, eh bien il faut du temps pour que cette puissance puisse s'exprimer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle part du centre de notre vie à la circonférence, du centre de notre vie à l'extérieur. C'est sûr qu'un croyant qui est juste nouvellement né va progresser, s'il le fait fidèlement, en aimant le Seigneur de tout son cœur, en se distinguant par son zèle. Il va progresser de plus en plus, il va rencontrer des occasions de voir, en fait, dans sa propre vie, la corruption du péché et de s'en éloigner. Et il va apprendre de mieux en mieux à connaître cette volonté de Dieu qu'il désire faire, et surtout, c'est les méthodes du Saint-Esprit. Mais quand nous sommes nouvellement nés, nous sommes des enfants. Un enfant a besoin de lait, c'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est du lait spirituel. On ne peut pas donner à un nouveau-né de la viande à mâcher, il n'a pas de dents. Et il ne pourrait pas la digérer, ça le ferait mourir. Donc, il y a une progression que nous devons voir dans nos vies. Le départ va forcément, nous allons forcément marcher de façon charnelle, mais nous allons nous en rendre compte. Il va y avoir un discernement qui nous est donné, une perception de l'Esprit qui va nous éduquer, parce que c'est lui le parfait enseignant, c'est lui qui va nous éduquer pour nous montrer que ce que nous faisons de bien, bon, pour le mal, on est d'accord, c'est relativement facile, on va s'éloigner forcément des péchés grossiers, on le sait, intuitivement on le sait. Mais pour la marche avec Dieu, eh bien, on va tantôt utiliser notre ressource charnelle, notre vie naturelle, parce que c'est celle qu'on a toujours eu l'habitude d'utiliser. Mais le Saint-Esprit va à ce moment-là nous alerter et nous montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et si nous apprenons à étudier la Bible de façon aussi systématique, parce que les Saintes Écritures nous révèlent la pensée de Dieu, eh bien nous allons pouvoir ajuster, avec l'aide du Saint-Esprit, tout notre comportement pour qu'il soit de plus en plus spirituel et de moins en moins charnel, ou en d'autres mots, qu'il trouve sa source de vie en Dieu, dans la pensée de Dieu, dans les paroles de Dieu qui nous sont révélées, et de moins en moins dans notre être naturel, c'est-à-dire notre rationalité, notre intellect, notre intelligence, nos émotions. Et de plus en plus, nous allons apprendre, découvrir et apprendre ce qu'est cette marche par l'Esprit et dans l'Esprit, parce que là, nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit. Je pense que le défaut de croissance que nous pouvons voir à la fois chez les autres et chez nous est dû à deux causes. Il y a bien sûr la négligence de ceux qui veillent sur les âmes, des jeunes croyants, parce que on insiste beaucoup sur la grâce de Dieu et sur la position en Christ, mais on omet d'encourager ces jeunes croyants sur le chemin de l'expérience spirituelle. Parce que ce n'est que dans l'expérience que nous allons mesurer, en fait, le décalage qu'il y a entre la volonté de Dieu que nous découvrons dans les Écritures et que le Saint-Esprit nous fait découvrir, et puis la marche. Et puis, le deuxième point qui empêche ce défaut de croissance, c'est le manque de zèle des croyants eux-mêmes. Il y a une paresse spirituelle énorme, et c'est ce que je vois constamment dans l'accompagnement spirituel, dans le ministère. C'est ces efforts qui ne sont pas décidés et voulus par les croyants pour rechercher la pensée de Dieu. Comment recherchons-nous la pensée de Dieu ? Ben c'est simple. Dieu s'est révélé, la pensée de Dieu, elle est révélée dans les Saintes Écritures, point. Si vous ne connaissez pas les Saintes Écritures, comment pourrez-vous connaître la pensée de Dieu ? Parce que le Saint-Esprit n'aura rien en vous pour vous rattacher et vous montrer ce que vous êtes en train de vivre. Tandis que si les Saintes Écritures sont connues de vous, le Saint-Esprit va faire vivre ces versets, ces passages, ces lectures. Il va les faire vivre dans votre vie de tous les jours et il va l'appliquer. Vous savez, le bon enseignement, il est toujours très pédagogique, c'est-à-dire qu'il est répété. Pour enseigner, on répète. Il y a ce côté-là, effectivement, de répétition. Et puis la deuxième chose, c'est l'expérience. On va faire des travaux pratiques. On va appliquer ce que nous avons appris. Et ces deux principes, le Saint-Esprit les utilise. Mais il ne les utilise pas à notre insu et il ne les utilise pas sans notre assentiment et sans notre consentement. Donc si nous ne sommes pas sérieux dans l'étude des Écritures, dans la lecture des Écritures et l'étude des Écritures, ce sont deux choses différentes, eh bien le Saint-Esprit n'a pas, de matériaux à faire vivre dans notre vie, pour l'appliquer, pour que nous passions à une dimension très pratique. Vous savez, si nous lisons la Bible sans qu'elle ait une implication dans notre vie, nous nous séduisons, dit l'apôtre Paul. Nous sommes dans une illusion. Nous sommes comme l'homme qui se regarde dans un miroir et puis il s'en va, puis il a oublié qui il était. Et très souvent, c'est ce que nous faisons. Nous ne lisons pas les Saintes Écritures avec cet objectif d'application pratique dans notre vie, d'intégration concrète dans notre vie. Les caractéristiques des chrétiens charnels, je pense que la première et la plus importante caractéristique, c'est précisément ce qui reste des bébés. Des petits enfants. Alors, cette étape, elle devrait durer quelques années, au plus. Mais quand vous avez un gros bébé de 30 ans, à qui il faut donner la cuillerée de bouillie, ça ne marche pas. Dans la vie naturelle, ça fait rire, ou pleurer, suivant les cas. Donc, si la croissance, si le fait d'être des enfants spirituels est une chose normale pour un croyant nouveau-né, ça ne doit pas durer longtemps. Ça ne doit pas durer longtemps. J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes chrétiens qui, en quelques mois, ont maturé de l'enfance au jeune homme. voire à la limite du Père, celui qui donne la vie. Donc, dans les choses spirituelles, le temps n'existe pas. Par contre, tout est soumis à notre désir. Et vous savez que le désir, en fait, c'est la marque de l'amour. On ne peut pas aimer sans désirer la présence de l'autre. On ne peut pas aimer sans désirer le rencontrer. Et le désir que nous avons du Seigneur va attester de notre amour pour lui et va nous faire grandir à la vitesse grand V. Et nous passerons très vite à la dimension du chrétien spirituel, qui est la norme, je le répète encore, c'est la norme. Marcher par l'esprit, c'est un ordre. Donc la spiritualité du chrétien normal, c'est la normalité. C'est la normalité. Et Paul va dire, donc, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouviez pas la supporter. Voilà. Les Corinthiens étaient charnels et je vous renvoie à cet épître pour que vous voyez de quoi ils se targuaient. Ils étaient sûrs qu'ils étaient sages, qu'ils avaient beaucoup de connaissances, etc. etc. Donc, pour être spirituel, eh bien, c'est d'abord une expérience pratique de l'union de la vie du croyant avec la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et cela est conditionné par une marche. Alors là, j'arrive à un point toujours très difficile. Pour les chrétiens, c'est une marche de parfaite obéissance au Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous instruire. C'est un cœur obéissant que Dieu recherche. Dieu ne recherche pas des actes, Dieu recherche un cœur qui soit soumis et obéissant. Quand les dissensions allaient leur train dans l'église de Corinthe, c'est une évidence qu'ils étaient charnels. Les uns disaient « moi je suis de Paul », les autres disaient « moi je suis de Céphas », etc. C'était des hommes charnels, c'était des bébés. Vous savez, les bébés, les enfants, les jeunes enfants qui se disputent. Ah, ma maman m'a dit ça, ma maman, mon papa. Voilà, c'est véritablement l'infantilisation des chrétiens qui est tellement triste par manque de zèle, En quelque sorte, on pourrait conclure que un chrétien charnel, c'est un homme ordinaire. Il n'est pas différent des hommes du monde. Il n'est pas différent. Et vous avez oublié cela, c'est que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Donc on ne peut pas être ami du monde et être ami de Dieu, ce n'est pas possible. C'est ou l'un ou l'autre. Peu importe l'étendue des connaissances de l'homme charnel, du chrétien charnel, ou le nombre d'expériences spirituelles qu'il a faites et qu'il vous témoigne ou qu'il prétend avoir faites. Peu importe cela. C'est pas ça qui le rend spirituel. C'est pas la somme des expériences qu'il a faites et dont il se vante qui le rend spirituel. Ce qui rend un chrétien spirituel, c'est son obéissance, je ne cesserai de le répéter, son obéissance à la volonté de Dieu. Et pour obéir à la volonté de Dieu, il faut que vous la connaissiez. Pour la connaître, il faut une chose. Non, j'irai dire deux choses. L'amour pour le Seigneur et l'amour pour les Saintes Écritures.